Bonjour à tous et bienvenue à la reprise après la pause estivale de Chant contre Chant, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission de rentrée qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, qui sera animée par Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et par Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
Et nous avons retenu, comme d'habitude, pour cette rentrée, trois films qui seront complétés par quelques coups de cœur. Alors, la vitesse de démarrage de l'année cinématographique nous a un peu pris de court, je dois dire. Winter's Leap, le magnifique film du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, Palme d'Or à Cannes, est en effet sorti le 6 août. Difficile, pour ne pas dire impossible, de ne pas en parler, même si nous sommes déjà fin septembre. Et c'est le choix que nous avons fait. De même, un des autres films importants de Cannes, Sis Maria d'Olivia Sayas, est sorti prématurément en août. Mais là encore, nous avons décidé de le présenter, même si c'est au détriment de films plus récents. Enfin, le troisième film retenu pour cette émission sera un premier film français tout à fait particulier qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Il s'agit de Party Girl. Et on va commencer par celui-là d'ailleurs. On va commencer par Party Girl. Alors, que sait-on de ces auteurs? Pas grand-chose. Ils sont jeunes, ils sont trois. Claire Burger, Marie Amachoukeli et Samuel Taïs. Ils se sont connus à la Fémis. Ils ont fait plusieurs courts-métrages, dont le dernier, Forbach, est déjà une annonce de ce Party Girl, leur premier long-métrage tout à fait original. Car s'il est fréquent, et de plus en plus, que les films s'inspirent de faits réels, il est tout à fait exceptionnel que d'une part une fiction soit aussi proche de la réalité qu'elle a inspirée, d'autre part que le film soit fait par ceux qui ont vécu cette réalité. En effet, si ici, l'histoire est celle d'Angélique, une entraîneuse de bar qui, l'âge venu, envisage sa reconversion, son personnage est joué sous son nom et par elle-même, et il en est de même de sa famille. Et Samuel Taïs est lui-même fils d'Angélique et joue bien sûr son propre personnage. Alors Jean-Michel, sommes-nous face à un nouvel accroc dans la frontière entre documentaire et fiction ?
Oui, toute fiction est par certains côtés un document sur le milieu humain dont elle offre des images choisies. Tout documentaire doit à la méthode du cinéaste et au montage de ses images, étape fondamentale ici, des échappées fictionnelles au sein même du film. Et ce film est né du désir de filmer ses proches et de mêler fiction et réalité. Nous sommes ici en face d'une histoire vécue, et remanié, réinterprété et transposé, exalté par ses auteurs et ses acteurs non professionnels, qui du reste se confondent en partie, qui sont membres d'une même famille, réunis devant la caméra dans leur propre rôle, et tricotent avec justesse et un naturel parfaitement convaincant un avatar actuel du cinéma vérité. C'est si vrai que le film présenté à Cannes dans la section Un certain regard a obtenu la Caméra d'Or qui récompense le meilleur premier long métrage.
Mais alors, pour toi, de quel genre de film s'agit-il ?
On peut dire que peut-être il s'agit d'un, malgré la banalité du terme, d'un conte de fées modernes. Angélique a 60 ans, elle aime encore la fête, elle aime encore les hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret lorrain à la frontière allemande. Mais avec le temps, les clients se font plus rares et Michel, son habitué, son copain depuis 2 ans, est toujours amoureux d'elle et un jour, il lui propose de l'épouser. Angélique est à un tournant de sa vie, un sentiment de solitude l'envahit, elle est aussi un petit peu fleur bleue et aspire à une vie plus paisible, dans la tendresse durable d'un homme boué de sauvetage. Elle va accepter,
mais... Oui, enfin bon, on ne peut pas dire que ce soit un scénario très très excitant.
Non, c'est vrai. Le scénario en lui-même n'est pas d'une originalité profonde et passe par toute une série de scènes de bravoure qu'on a pu voir dans d'autres contextes. Mais c'est le choix de partir du cliché, de le travailler, de le détourner, de préférer à un projet social et moralisant une peinture intimiste des répercussions familiales de la décision insolite d'Angélique avec ses ratés, qui emporte l'adhésion du spectateur. C'est aussi la finesse du portrait d'Angélique qui s'enrichit pendant le déroulement du film et nous lance sur plusieurs pistes de dénouement possibles, qui toutes sont plausibles, et rendent bien compte des contradictions du personnage qu'elle, Angélique Lidsenburger, devient. Celui-ci, au lieu de sombrer dans un plat réalisme ou un naturalisme sans poésie, transcende la personne même d'Angélique.
Enfin, c'est vrai que c'est elle dont on a envie d'entendre parler.
Oui, c'est elle qui centre le film. C'est elle qui est un avatar, si l'on veut, d'une Gena Rowlands dans les films de Cassavetes. C'est elle qui fait la richesse et du film et suscite l'émotion. C'est son visage marqué par la vie, un peu trop maquillé, mais empreint de douceur et éclairé d'émouvants yeux bleus, cigarette au bec. Angélique, elle est superbe et vulnérable, comme le suggère son nom, un peu enfantine aussi, distillant autour d'elle la tendresse. Elle tente dans un état second entre ses collègues pailletés du cabaret Ève, qui, dit-elle, est un endroit convenable où les filles ne sont pas faciles. Chacun de ses trois enfants, deux garçons, dont Samuel, l'un des trois réalisateurs, deux filles, dont l'une, Cynthia, quasi abandonnée à une famille d'accueil, et son amoureux, Michel, brave gars tatoué, et chevalier servant plein de délicatesse qui pourrait la sauver. Mais cette vieille girl, cette fleur bleue montée en graines, équipée d'un piercing et de nombreux bracelets et bagues bon marché qui l'étourdissent, est aussi une mère sourcilleuse et une grand-mère à la fois consciente de ses insuffisances et attendrie par ses petits. Son grand souci à ce stade de sa vie, c'est de savoir si elle va être capable de faire le grand saut du creuset excitant de sa famille professionnelle au port d'une vie familiale apaisée, et protégée par un compagnon aimant. Je voudrais encore dire, pour rendre compte de la qualité de la bande-son, que les trois réalisateurs ont monté autant au son qu'à l'image, et qu'au départ, ils voulaient mettre sur pied un groupe de rock.
D'accord. Oui, moi, j'ai été très, très touché par ce film, très sensible. Maintenant, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment musical, mais enfin, une question que je me pose, c'est, peut-on vraiment juger ce film en dehors de son côté performance? C'est-à-dire, en dehors du fait que ce film se présente étrangement comme une sorte d'impossible documentaire tourné dans un passé où on a fait retour. Moi, je dois dire, cet aspect absolument fascinant. J'avais un peu l'impression, et c'est pour moi un des charmes que j'ai trouvé dans ce film, j'avais un peu l'impression d'être un peu dans un scénario de science-fiction où des personnages sont amenés à revivre dans le jeu ce qu'ils ont déjà vécu dans la réalité. Enfin, ceci dit, je suis d'accord avec toi, c'est Angélique qui porte le film. Cette espèce d'étonnant personnage, cette espèce de sorte d'oiseau venu d'ailleurs, dans la nuit et le royaume, elle ne peut se résoudre à revenir derrière les barreaux de sa cage, et en même temps, le visage qu'on lui voit dans le film en fait un être d'une surprenante quotidienneté, dans une sorte de contradiction, qui me semble merveilleusement condensée finalement dans les vers d'Apollinaire. Tu sais, j'ai vu des gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin.
C'est beau ça.
Françoise, tu veux...
Oui, moi je rejoins ce que tu dis, mais qu'à moitié. Parce que quand j'ai lu les quelques lignes donnant le sujet du film, j'ai eu peur en me disant « je suis pas sûre d'avoir envie de voir ça ». Et finalement, le film m'a surprise d'un bout à l'autre et j'en suis sortie très, très, très touchée, très émue et en même temps très intéressée parce qu'il me semblait que le film, au-delà du sujet qu'il traite, traite de quelque chose qui m'intéresse personnellement beaucoup, à savoir l'identité et l'altérité. Et l'identité de cette femme, d'un bout à l'autre, est restée pour moi intéressante et surprenante. Je ne m'attendais pas du tout à la fin du film. Et je pense que c'est un film qui, plus que d'autres, en tout cas, met en image l'altérité, c'est-à-dire l'autre complètement insaisissable alors qu'il est à portée de main. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé.
Oui, je t'en parle. Oui. Cet aspect altérité tout à fait passionnant. Oui. Jacques, comment tu réagis?
Oui, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, au début, ce mélange de vraie vie et de fiction et puis d'acteurs non professionnels qui jouent leur propre rôle est parfois un peu déroutant. L'amateurisme des acteurs se ressent un peu au début. Y a des répliques qui sonnent un peu faux, mais en fait, on est très vite pris par l'histoire et les personnages effectivement sont très attachants quoi. On frise parfois un peu le mélo, mais ça tient par la folie exubérante du personnage principal d'Angélique qui entraîne et fascine le spectateur quoi. Je pense qu'effectivement sans elle, on serait assez vite dans un film un peu mélo et un peu routinier. Et puis je pense aussi que l'intérêt du film réside dans le fait qu'il est ancré dans un lieu très typé, à la frontière franco-allemande, où les personnages sont sans cesse en train de changer de langue. Et ça, je pense que ça ajoute à l'authenticité du film.
Tout à fait. Tout à fait. On est dans les phrases sont des fois dites d'abord en français puis en allemand, vice versa. Et on est encore à cette frontière d'identité. Ouais. On est où? C'est qui? C'est du français ou de l'allemand? Maintenant, quand tu parles de mélo, c'était le risque, mais en même temps, j'ai eu le sens que c'est un film qui a toujours traité le sujet avec énormément de pudeur.
C'est ce que je dis, on frise, mais on ne tombe pas.
Mais il y a beaucoup de pudeur.
Enfin, je crois qu'on est quand même pas mal à la mise. C'est quand même un des petits reproches que je ferais au film, d'être toujours un peu trop empathique. On est toujours quand même à la limite des bons sentiments, un peu idyllique.
Le film tient par ça, hein. Sinon je pense qu'il... au point de vue cinéma, c'est assez banal.
Oui, mais la situation est assez extraordinaire. La situation est assez extraordinaire. Il tombait quand même dans une certaine facilité, je trouve.
La gageure aussi a été pour les réalisateurs de diriger une majorité d'acteurs non professionnels, avec quelques acteurs professionnels. Celui qui n'est pas dans le rôle de sa vie, c'est Michel.
Mais il n'est pas professionnel non plus.
Hein. C'est le mari.
Ils l'ont trouvé dans un café.
Oui. Mais enfin, disons qu'il n'est pas dans le rôle.
Il n'est pas concerné directement.
Voilà. Et ils ont été obligés de composer avec l'improvisation, la réalité des sentiments de chacun de ces acteurs non professionnels et le fait qu'ils étaient trois à diriger.
En plus.
Oui. Et puis je trouve qu'il y a quand même des très belles scènes. Je pense, par exemple, à la scène des Montgolfières, je trouve que c'est superbe. C'est vraiment une métaphore de son rêve. Elle rêve d'être allée vers le ciel, monter vers le ciel. Et puis également la scène finale, que j'ai trouvée très, très belle. Cette scène où la boîte de nuit, pour une fois, est toute lumineuse. On sent qu'on est dans un rêve qui, de toute façon, nie la réalité.
Oui, avec la possibilité d'une fin ouverte, malgré tout.
Oui, Angélique est restée insondable. Oui. Hein, elle reste insondable. Oui. Elle est autre.
Elle est autre.
Elle est autre. Et ça, c'est une grande force du film.
Oui. Et elle rend bien compte de cette altérité en permanence. Oui.
La même et l'autre.
Voilà. Bien, on va passer maintenant à Sils Maria, le dernier film d'Olivia Sayas. Même s'il n'a rien obtenu à Cannes où son film était très attendu, Olivia Sayas, qui a maintenant 59 ans, fait quand même partie depuis longtemps du cinéma français, d'abord comme critique au Cahier du cinéma, où il a beaucoup contribué à faire connaître le cinéma asiatique en France, puis dans la réalisation de films, où après avoir travaillé comme scénariste avec Téchiné, et d'ailleurs déjà avec Juliette Binoche, comme dans Rendez-vous en 1985, il se lance dans la mise en scène. Alors, avec un côté touche-à-tout, qui lui fait aborder des films de genres aussi différents que Les Destinées Sentimentales, Clean, Demon Lover ou L'Heure d'été. Alors, avec Sils Maria, c'est encore une expérience d'un genre nouveau qu'il tente, puisque, dit-il, au lieu cette fois de partir d'un sujet, son point de départ, c'est une actrice, Juliette Binoche, laquelle lui avait dit vouloir tourner un film avec lui. Alors, Jacques, est-ce que Juliette Binoche laisse bien inspirée? Et de quelle façon?
Pour moi, oui. Sils Maria fait partie de la grande famille des films qui nous emmènent dans les coulisses du spectacle, dans la vie des acteurs. C'est un genre qu'ont illustré, entre autres, des réalisateurs aussi différents que Mankiewicz, Berman ou Fellini. Le film, en fait, débute dans un train où nous découvrons une actrice célèbre, Maria Anders, qui est jouée par Juliette Binoche, et son assistante Valentine, qui est jouée par Kristen Stewart. Elles se rendent à Zurich où Maria doit recevoir un prix décerné au nom du dramaturge Wilhelm Melchior. Maria lui doit beaucoup, car c'est par une pièce de Melchior, Le Serpent de Maloya, qu'elle a connu le succès à 18 ans en incarnant Siegfried, une jeune fille ambitieuse et au charme un peu trouble qui conduit au suicide d'une femme plus mûre, Elena. Pendant qu'elles sont dans le train, un message leur apprend la mort de Melchior. Maria est complètement bouleversée. La cérémonie à Zurich, bien sûr, se transforme en un hommage posthume où affluent acteurs et metteurs en scène. Et l'un de ces metteurs en scène propose à Maria de reprendre la pièce de ses débuts, mais en passant de l'autre côté du miroir, en interprétant la femme mûre, Elena.
Elle va accepter ?
Eh bien, elle est très réticente parce qu'elle est encore Siegfried. Elle se sent Siegfried, mais effectivement, elle finit par accepter. Et la suite du film nous emmène dans le chalet de Melchior, à Sils Maria, en Engadine. Alors c'est un lieu mythique où Nietzsche et Proust, entre autres, ont séjourné, et où Marie va répéter la pièce avec Valentine. Cela se passe pas très bien. À plusieurs reprises, Maria veut tout arrêter. Elle ne sent pas le rôle d'Elena. Tous lui disent que ce rôle est plus riche, plus complexe que celui de Siegfried, et bien sûr adapté à son âge, mais elle reste viscéralement attachée au rôle de sa jeunesse. Et elle se débat, on sent qu'elle se débat avec le texte à chaque réplique. Du coup, elle est irritée, sa mauvaise humeur retombe sur Valentine. Et leurs âges respectifs, qui sont semblables aux personnages de la pièce, font évidemment se confondre théâtre et réalité, leurs disputes dans la vie se superposant au dialogue de la pièce. Donc on retrouve le thème du temps qui passe, du refus de vieillir, et le thème du double, tous ces thèmes qui avaient été sublimés dans le film de Mankiewicz, Eve. Alors le thème du double d'ailleurs se complique d'ailleurs ici car il y a un double à Valentine, bien entendu c'est l'actrice qui doit interpréter le rôle de Siegfried, qui est une jeune étoile montante de Hollywood, Joan Ellis, qui est célèbre autant pour ses films que pour ses aventures mondaines, abondamment relatées dans la toile, et qui d'ailleurs fascine Maria.
Alors là on est dans un classique conflit de génération.
Oui, et c'est là que se situe, à mon sens, l'autre thème du film et son originalité. Parce que Mankiewicz nous montrait le vieillissement d'une actrice, mais dans un univers hollywoodien qui, lui, ne changeait pas. Alors que Assayas nous montre, au contraire, un monde qui change complètement. Le film est plongé dans les nouveaux médias. Valentine est scotchée à ses smartphones. Les infos se répandent à toute vitesse sur la toile. Joan Ellis entretient sa célébrité par des vidéos trash sur YouTube. Et face à cela... Maria est une actrice d'une autre époque. Elle est complètement déconnectée. Elle ne comprend pas les films qu'aime Valentine. Elle ne connaît pas les célébrités dont lui parle Valentine et celles qui comptent pour elle ou pour Joan. Et c'est cet enchevêtrement entre plongée dans le monde du théâtre et du cinéma, affrontement entre générations et bien sûr sentiment intime des protagonistes qui fait l'intérêt de ce film que j'ai trouvé moins passionnant, très subtil, et servi bien entendu par deux actrices exceptionnelles. On peut dire d'ailleurs que Kristen Stewart fait totalement jeu égal avec Juliette Binoche et filmé dans les très beaux paysages des Alpes suisses.
Oui, enfin, je dois dire que je suis moins enthousiaste que toi. Enfin, je reconnais que c'est un film incontestablement ambitieux, mais qui, moi, pêche justement à prendre ce qu'il veut embrasser. Il y a un nombre considérable de filles, là, tu les as soulignées. Celui de l'actrice célèbre qui se voit vieillir et qui a du mal à changer. Celui de son remplacement par une jeune bimbo ovni. Celui d'un monde qui change trop vite et qu'elle ne réussit pas à suivre. Celui de la confusion du théâtre et du monde réel. Celui de la relation entre deux femmes dans le huis clos d'un chalet de montagne. Celui du double. D'accord. Mais je trouve que tous ces filles s'en mêlent tellement, ils sont si incolores et sans saveur, qu'ils finissent par constituer une espèce d'écheveau assez informe et qui, finalement, je me suis pas mal ennuyé. Il n'y a pas une seule de ces pistes qui aboutissent vraiment. Je suis reconnaissant à Assayas de ne pas surligner, mais quand même, j'ai le sentiment d'une frustration permanente. Le plus raté pour moi se situant dans la tension, l'absence de relation entre Valentine et Maria, qui est une pâleur totale, tout y reste à l'état d'épure, d'esquisse.
Ça y a vraiment pas plus.
Attends, j'ai pas terminé. Et de non-dit, malgré les éclats hystériques de Binoche. Tu dirais quand même une chose en faveur de ce film. Étant donné que c'est un film ambitieux, je trouve que c'est un bon film raté. Ceci dit, je prépare infiniment les bons films ratés ou bons films réussis.
Au secours, je boue. Je pense que Jacques a dit absolument ce que j'aurais aimé dire aussi sur ce film. Très bien, il l'a très bien fait. Jean, avocat du diable, a été presque un peu plus loin que son sentiment, mais c'est important pour la discussion. Ceci étant, moi, je suis complètement du côté des turiféraires de ce film. Je ne suis pas un admirateur d'Assayas. Vraiment, ses films précédents m'avaient laissé sur la berge. Et je trouve que là, il réussit un film tout à fait extraordinaire, où justement la multiplicité de ces pistes, de ces fils, me paraissent tresser quelque chose de complètement harmonieux, de très riche, de foisonnant, qui n'en fait pas du tout un ratage, mais au contraire, quelque chose, certes d'ambitieux, mais pour moi, de très réussi, avec des relations entre ces différentes femmes admirablement dirigées et qui jouent extraordinairement, qui auraient pu avoir d'ailleurs un prix d'interprétation féminine
tout à Cannes,
oui. Toutes les trois, ou Juliette Binoche seulement, et avec cette confusion entre leur identité de comédienne et leur identité de personne, qui moi personnellement rappelle ce que je cherche à faire si souvent, pas toujours en le réussissant, un Philippe Garrel dans ses films, mais qui ici est parfaitement réussi, avec des dialogues auxquels on est suspendu, et je veux simplement citer, parce que ça me l'a rappelé très fortement, la phrase de Winnie dans « Oh les beaux jours » de Beckett qui dit, et Maria aurait pu le dire, « Avoir été toujours celle que je suis et être si différente de celle que j'étais. »
Je vous admire, chers amis, de faire les films à la place des autres. Parce que ça c'est le film que vous faites et c'est pas du tout le film que je reconnais que ça se trouve tellement en suspens. Françoise, attends un peu.
Bon, moi je ne partage pas l'enthousiasme de Jean-Michel ni celui de Jacques Champeau, mais je vais dire une chose. Quand j'ai vu ce film, je me suis un peu ennuyée parce que je crois que je me suis perdue dans le brouillard, dans le serpent de Maloya, le Maloya Snake, que je me suis dit c'est un millefeuille, je ne m'y reconnais pas, confusion entre ceci et cela, je m'ennuie. Et finalement, après avoir réfléchi réfléchi au film après en avoir parlé avec d'autres. Je me suis dit, finalement, c'est beaucoup plus intéressant que je ne le pensais, que je ne l'ai ressenti pendant la projection du film. Et c'est un film qui est en train de prendre corps. Je ne partage pas encore l'enthousiasme absolu, mais je me dis que c'est un film qui a certainement beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup aimé voir Juliette Binoche. Bon, mais ça, je pense que beaucoup de personnes partageront cet enthousiasme. Et puis surtout, de découvrir Kristen Stewart. J'ai trouvé qu'elle était remarquable dans son jeu. Je ne la connaissais pas et je l'ai découverte. C'est un élément positif du film. J'ai été déçue par le cadre, par la Suisse. C'est un endroit que je connais. Je ne l'ai pas retrouvé, mais je pense que c'est volontaire de la part de Dasayas. Il n'a pas voulu nous donner l'image de la Suisse que nous attendons. C'est un film peut-être à revoir et en tout cas, il faut en discuter avec des amis, absolument.
Oui, enfin, je n'ai pas dit que le film était nul. Je dis qu'il est... qui n'arrive pas à la hauteur de ses ambitions. Pour moi, l'exemple le plus classique, c'est que finalement, la relation principale, c'est celle qui existe entre Valentine et Maria dans le chalet. Et à la fin, Valentine disparaît. Et il est absolument impossible de trouver véritablement une interprétation parfaitement satisfaisante de cette disparition. Et pour moi, c'est le signe même que ce film ne reste toujours trop sous-entendu pour pouvoir être explicite.
Bon, elle est assez naturelle. Je pense que Valentine en a un peu marre et a envie de voir autre chose, en fait, hein, parce qu'elle est un peu prise dans cette...
Non, moi, je
te trouve très critique, parce que c'est un film, au contraire, où je trouve que les différents thèmes s'enchaînent bien, s'en mêlent bien. Et puis, à la limite, un film qui n'a qu'un thème, c'est qu'on a simplifié la vie. Là, on est dans une vie complexe, et je trouve que c'est très intéressant. Il y a des scènes extraordinaires. La dernière scène où Maria et Joe Ellis sont face à face et où elle quémande, où la vieille quémande quelques secondes d'éclairage en plus à la jeune, qui l'envoie balader avec un sourire carnassier et puis des raisonnement assassin.
Ça, Jean-Paul, c'est magnifique.
Ce qui est magnifique, c'est qu'on pense en plus que Maria, elle aurait pu faire la même chose 20 ans avant.
Oui.
Donc c'est ça qui est passionnant dans ce film.
Ce que j'aurais beaucoup, c'est que c'est la partie centrale de la principale soit aussi tiède et fade.
Je ne trouve pas ça.
Nous ne pouvons que constater un désaccord.
Voilà.
C'est un film qui suscite des lectures très différentes.
Donc il faut aller voir pour savoir de quel côté vous
branchez. Il faut aller voir.
Oui, je crois qu'on ne cherche pas à s'entendre qu'on oncle le mieux, c'est de renvoyer ça au spectateur qui jugera, qui nous dira la façon dont lui-même en a réagi. Il a réagi. Bien. Maintenant, nous allons passer donc... à la pause musicale classique, et donc nous vous retrouvons dans un petit moment, et ça nous permettra d'avoir un petit moment pour régler nos comptes entre nous. À tout de suite. Nous allons passer maintenant à Winter Sleep du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Cinéaste très coutumier des lauriers canois, puisqu'il a obtenu le Grand Prix et le Prix d'interprétation en 2003 pour Uzak, le Prix de la mise en scène en 2008 pour Les Trois Singes, et de nouveau le Grand Prix pour Il était une fois en Anatolie en 2011. Il ne lui manquait donc que la Palme d'Or, c'est fait aujourd'hui, puisque Winter Sleep est reparti de Cannes avec la Palme d'Or. Et l'on retrouve d'ailleurs toutes les constantes de l'œuvre de ce cinéaste. Hein. La lenteur, l'errance, la solitude des personnages, la splendeur des images, particulièrement hivernales, dans ce film qui se déroule dans un petit hôtel d'Anatolie. Dans le petit hôtel d'une Anatolie pétrifiée sous la neige, et met en scène les déchirements d'Aydin, un comédien à la retraite, de sa jeune épouse Nial, et de sa sœur Nekla, mal remise d'un divorce récent. Alors, s'agit-il de l'œuvre magistrale d'un artiste à son zénith, ou bien, comme certains critiques l'ont dit, d'un film académique, d'une facture vieillie datant des années 60. Françoise, dans quel camp te ranges-tu ?
Alors, sans hésitation, dans celui des admirateurs. La qualité d'un film comme Winter's Sleep ne se mesure pas à l'aune d'un vocabulaire marchand. Est-ce bien là un produit moderne ? Ne serait-ce pas déjà un peu trop classique, voire vieux jeu périmé ? Il ne s'agit pas du tout d'un objet de consommation, mais bien d'un film somptueux, qui a la dimension d'une œuvre d'art, et ceci pour toutes les raisons que tu viens de donner, cadre, lumière, couleur, acteur bien sûr. Mais, double précaution, il faut s'installer, un, dans la durée, 3h16, et 2, dans un paysage majestueux certes, mais désertique, hivernal et glacial. Les hauts plateaux d'Anatolie centrale, on est prévenu. Il est intéressant de savoir que Céline se réclame autant de Tchekhov que de Bergman. À l'un, il emprunte des personnages enfermés dans leur solitude, leur ennui, leur impuissance à trouver un sens à leur vie, et à l'autre, ces dialogues ciselés, incisifs, cruels, qui demeurent d'ailleurs souvent le seul lien des couples en crise.
Ben justement, Françoise, on a reproché à ce film la longueur excessive des dialogues intimistes, moralistes ou philosophiques. Pour toi, est-ce que c'est un film bavard ?
Il est exact que le film procède par de longues conversations successives. On n'est pas obligé d'aimer. Pour ma part, je trouve que non seulement ces dialogues créent l'originalité et la profondeur du film, mais qu'ils mettent en valeur la beauté stupéfiante des images qui révèlent petit à petit la complexité des personnages. Chaque plan est un tableau. Alors en deux mots, de qui, de quoi s'agit-il ? Eh bien surtout d'Edine, comme tu l'as dit, un homme aujourd'hui à la retraite qui gère en Anatolie un petit hôtel qu'il a hérité de son père. L'hôtel est construit dans l'une des nombreuses grottes troglodytes de la région, mais il se trouve que ces grottes camouflent aussi des habitations souvent très pauvres pour lesquelles Edine perçoit des loyers. Edine y vit là avec sa sœur Nekla et sa très jeune femme Nihal.
Alors, Edine est parfois perçu comme un homme autoritaire, égoïste, indifférent à la misère qui l'entoure. Bref, pas très sympathique.
Disons qu'Edine est un homme compliqué. C'est un solitaire. Nihal, sa jeune femme, ne l'aime plus. Il s'enferme dans son bureau, creusé justement dans une grotte. C'est son refuge. C'est là, à un moment, le film de dos. Massif, immobile, silencieux, devant la toute petite fenêtre qui ouvre sur l'extérieur glacé de la steppe. Et on entend alors quelques notes d'une sonate de Schubert, très douce, déchirante, et pour moi, toute la tristesse de cet homme nous est dite à ce moment-là. Quand un enfant, un petit garçon, lance un caillou contre la vitre de son 4x4 pour venger l'humiliation de son père, qui a justement été victime d'une saisie d'huissier parce qu'il n'avait pas payé le loyer, Edine demande à propos de l'enfant, il s'est pas fait mal, mais il n'agira pas en faveur du père humilié. Il se réfugie au plus profond de lui-même, il veut rien savoir. Il ne répond pas davantage d'ailleurs aux propos acerbes de sa sœur qui le traite de raté et qui de plus accable sa jeune femme de paroles tout à fait venimeuses. Nihal, elle aussi, est un personnage complexe et attachant. Elle cherche désespérément un sens à sa vie de jeune femme dans cet hôtel perdu. Elle est sensible, charitable et pas moins incroyablement maladroite quand, en croyant aider le père de l'enfant en colère, elle l'humilie par un don d'argent qui ne fait que mettre le feu aux poudres. Et alors, le couple Edine-Nihal, eh bien, Célan, bien sûr, n'en dira rien. Mais dans les toutes dernières images, à savoir Edine dans son bureau, Nihal dans le sien, moi j'ai vu comme une douce bienveillance à l'égard des personnages, un regard d'une profonde humanité. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous-même avez eue.
Oui, je vois que tu as été très touché par ce film, moi aussi. Je dois dire que je craignais beaucoup de le revoir à sa sortie à cause de sa lenteur, à cause de la place donnée au dialogue, de sa durée. Et puis ça m'a fait comme un canne, je n'ai pas vu passer ces 3h16. Pourquoi ? Je pense parce qu'il n'y a pas un seul plan vide. Parce que l'on est pris par l'intensité des scènes et des dialogues comme on peut être pris par la progression de l'intrigue d'un thriller. Parce qu'il y a une extraordinaire correspondance, et pour moi ça c'est vraiment du cinéma le plus authentique, entre ces maisons troglodytes, enfermées sous double carapace de la pierre et de la neige, et ces personnages murés dans le ressentiment, dans l'amertume de leurs souvenirs. Et qui sont toujours, et c'est ça qui va, je trouve extrêmement intéressant, cette obligation où ils sont de ne jamais être même, de toujours porter des masques et ne jamais montrer ce qu'ils sont réellement. Ainsi le Hajj, au sourire, au discours mielu. Ainsi Aïdine qui dissimule sa jalousie. Et puis ces moments d'explosion, comme On a l'impression d'un monde qui est étouffé sous la neige et le gel, et brusquement, ça explose. Et ça, c'est vraiment ça. Quelles sont vos réactions, messieurs ?
Oh ben, c'est un film qui est un film magnifique. Bon, effectivement, il est très classique, mais après tout, quand le classicisme est parfaitement précis et subtil comme l'est celui de Celan dans ce film, je crois qu'on peut que s'en réjouir. Et quand on utilise le chant contre chant pour souligner les dialogues tels qu'ils existent, bah oui, on n'a encore rien trouvé de mieux que le chant contre chant dans ce genre de situation.
Ça n'a rien à faire.
Donc,
hein,
voilà, je crois que c'est un film très classique. D'autant plus que quand même, même Celan, effectivement, filme de manière très classique, mais il utilise toutes les ressources de la technologie actuelle, parce qu'en fait, il a retravaillé toutes les couleurs, notamment les extérieurs en numérique, qui donnent des couleurs extrêmement presque noires et blanc, très fades, qui étouffent aussi le spectateur.
Oui.
Non, c'est un film splendide. Je dirais qu'on peut aussi voir un thème un peu politique, parce que c'est aussi le tableau féroce d'un potentat local et de ses relations, entre guillemets, avec ses sujets, quoi. Il méprise les pauvres gens parce qu'ils ont perdu le sens esthétique, ou les malheureux religieux parce qu'il pue des pieds, quoi. Donc il y a un côté aussi, c'est pas le thème central du film, bien sûr. Le thème central du film c'est le rentrer dans la tête du personnage. Et d'ailleurs Françoise parlait de cette image là où il est cadré dans la fenêtre. En fait, il y a un zoom qui va jusqu'à la tête et qui fait un zoom au noir complet. On entre dans la tête de Haydn.
Oui, bah, vous avez tout dit. Bien sûr, je fais chorus, moi. Deux, trois petites choses. Rappelez que Celan est un admirable photographe, qu'il a consacré beaucoup de temps à la photographie, et que la neige, pour lui, c'est extrêmement important, que le noir et blanc est majeur, et que il se plaît à dire que ce sont les ombres qui comptent le plus.
C'est beau, ça, parce que c'est bien le film, c'est bien ce que dit le film.
C'est pas un film bavard, bon, vraiment, c'est honteux de dire une chose pareille. C'est un film où, justement, ces joutes oratoires sont extrêmement importantes, et le chant contre chant les illustre très très bien. Les masques tombent à un moment dans une scène merveilleuse qu'il faut citer simplement en la mentionnant. C'est la scène de la beuverie, la scène où à ce moment-là tous les masques tombent, parce qu'il y a une espèce de désinhibition qui fait que les participants peuvent s'exprimer, et c'est également très très beau à ce moment-là. C'est aussi un film sur, a-t-on dit, les blessures d'orgueil, c'est vrai, les blessures d'orgueil de chacun des personnages et les conséquences qui vont en être tirées, et notamment le moment étonnant où l'enfant jette une pierre, comme tu l'as dit, dans la vitre, et va déclencher toute une série de réactions tout au cours du film, dans la vitre de la voiture de Heidi. Alors, je voudrais simplement citer aussi la musique qui est souvent à la fin des séquences, l'Andantino de la 20e sonate de Schubert, qui est un rappel aussi, une espèce de citation de ce qu'on peut entendre dans Au hasard Balthazar de Bresson, et associé à la voix de l'âne.
Oui. Alors, il y a une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Alors, Jacques parlait de ce portrait-là, que finalement c'était un portrait d'homme, un portrait d'un personnage extraordinaire, enfin très très fouillé. Et il y a une chose que j'ai trouvée remarquable dans la façon de mener ce portrait, c'est l'utilisation de la voix intérieure de Haydn à la fin du film.
Ah oui, c'est une belle scène, ça.
Il dit à Nicolas qu'elle est tout pour lui, qu'elle est plus importante que tout, et ça, il ne le dit pas. On l'entend, c'est une voix intérieure.
Oui.
Alors que pendant tout le film, on le voit de l'extérieur, c'est-à-dire comment on peut le juger en tant qu'extérieur. À la fin, on entend enfin qu'est-ce qu'il pense réellement.
Parce qu'il lui revient après de partir.
Et en fait, c'est supporté, parce qu'il faut quand même que l'image supporte cette voix intérieure. Elle est supportée par le visage qui... Le sourire, l'espèce de sourire un peu ironique suffisant qu'il a pendant tout le film, là a disparu.
Oui.
Le sourire est différent.
Oui.
Et en fait, ce qui change la fin du reste, le sourire est différent.
Et là, il a un sourire de tendresse.
Absolument. Ouais. Voilà, est-ce que ça durera, c'est autre chose.
Ouais. Mais bon, c'est pas. Voilà.
La fin reste ouverte.
C'est bien qu'on sache pas.
Ouais. Oui, c'est un mouvement de retour vers sa femme.
Oui, il revient.
Ce qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues qui reprennent presque mot pour mot ceux de la nouvelle de Tchekhov.
Oui,
donc c'est assez intéressant, parce que ça peut paraître parfois un peu théâtral, mais c'est vraiment les dialogues de Tchekhov.
Il reprend Tchekhov, mais il innove complètement.
Complètement,
c'est vraiment
La nouvelle Ma Femme.
La nouvelle Ma Femme.
Mais aussi l'autre, Brave Jean. Brave Jean apparaît également. Apparaît également.
Oui, il y en a trois, en fait.
Oui, la troisième, il ne nous a pas dit à quel c'était.
Oui. Oui, ben, personne pour s'élever contre ce film.
Comme quoi on peut quand même se trouver tous d'accord autour d'un film. Heureusement, on n'est jamais tous contre à la fois. Bien, ben, je propose qu'on passe maintenant au coup de cœur, repéré par chacun d'entre nous. Jean-Michel, toi, tu voulais nous parler d'un film de Toubib, Hippocrate.
Oui, ma formation m'y amène et je suis heureux qu'il ait été distingué à la Semaine de la Critique à Cannes. C'est Hippocrate. C'est le film assez autobiographique d'un jeune homme de 38 ans, Thomas Lilti, qui a deux passions, la médecine et le cinéma. Tourné dans l'hôpital où il a débuté, le réalisateur souhaitait au départ rendre hommage aux médecins étrangers qui l'ont formé. Il met en scène les premiers pas de jeune interne de Benjamin dans le service de son patron de père. Sa première expérience est mortifiante. Elle détermine la succession des événements ensuite. C'est le ratage d'une ponction lombaire que va réussir au contraire Abdel, un médecin algérien expérimenté mais exploité comme beaucoup de ces médecins étrangers et qui prendra cependant sous son aile Benjamin dans son parcours d'initiation à l'hôpital. Le réalisme du film est si frappant, une partie du personnel incarne les soignants, et la justesse des situations, des scènes, de leur conduite si impressionnante que le spectateur a besoin de se frotter les yeux pour croire qu'il s'agit vraiment d'une fiction, d'autant que sont captées avec une grande fidélité les paroles, les gestes de tous les acteurs des soins et le quotidien même de la vie hospitalière à travers ces ambiances si diverses. Ce que réussit très bien à montrer le réalisateur, c'est le poids des responsabilités qui accable le jeune médecin, interprété par Vincent Lacoste, et la perte de l'insouciance qui devient son lot lorsqu'il doit prendre des décisions et prescrire. À ses côtés, calme et pédagogue, Abdel, à qui Reda Kateb prête son talent, est un praticien empathique avec les malades qui n'hésitera pas à prendre des risques personnels pour faire prévaloir son éthique dans des situations critiques. Et sans épuiser le sujet, il faut mentionner que c'est aussi la question si difficile de l'erreur médicale que s'essaye à approcher le médecin cinéaste.
Oui, ben merci Jean-Michel, je crois que ça donne effectivement envie d'aller voir ce film, pour ceux qui n'auraient pas vu. Ben je pense qu'on va passer à un film tout à fait différent, mais avec le film présenté par Françoise. Là, je crois que Françoise, tu voulais parler de Anna Rabia.
Oui, de Mos Gitteuil, qui est sorti en octobre l'année dernière en Israël, donc avant l'embrasement de la situation à Gaza. Anna Rabia, ça veut dire « moi, une arabe ». C'est son dernier long métrage, première raison pour se déplacer. Deuxième raison, c'est un film singulier, en ce sens qu'il ne répond pas à nos attentes. Gitteuil, bien sûr, porte son regard cette fois encore sur l'actualité du Moyen-Orient. Il explore la société israélienne et son lien à la terre, mais lui se place au-delà du conflit. Alors, de quoi s'agit-il? D'une jeune journaliste juive qui arrive un jour dans les quartiers arabes de Jaffa, au sud de Tel Aviv, pour y enquêter sur le passé d'une femme qui vient de décéder, une femme juive née 70 ans plus tôt à Auschwitz, rescapée du camp, et qui plus tard se convertit à l'islam avant d'épouser un arabe. On lui demandait, paraît-il, mais comment peux-tu vivre avec un arabe? Le film procède par dialogue, par de brefs échanges entre Yaël, la journaliste, et Youssef, le vieil homme, aujourd'hui veuf, et puis Walid, et puis Myriam, et puis Sarah, tous habitent le quartier. Ce sont quelques rues défoncées, boueuses, des petites maisons aux murs décrépits, des toits de tôle, des herbes folles. Intéressant parce que la caméra de Gitteuil s'infiltre entre les personnages. Elle est un témoin invisible et elle écoute autant qu'elle filme, respectueuse des quelques mots échangés entre ces hommes et ces femmes qui égrènent des bribes de vie, des souvenirs en demi-teinte. Intéressant aussi, le film est fait d'un seul plan-séquence. On peut ne pas y voir un simple exercice de style, mais plutôt, et pourquoi pas, comme une profession de foi. Ce serait alors un film d'un seul plan qui fait lien, qui refuse les coupures. Et Gitteuil nous dit justement avoir refusé de filmer la violence, avoir préféré montrer de petites îles, dit-il, de petites enclaves de coexistence. Et c'est le vieux Youssef qui dit « Tout le monde se bat pour cette terre, pourquoi ? Elle est à personne, elle est à lui, et il montre le ciel. »
Merci Françoise, c'est un film très intéressant et je me souviens du plan final qui est absolument magnifique. Jacques, je crois que tu voulais parler de Mange tes morts, d'un second film de celui qui avait fait la BM du Seigneur.
Oui, c'est un titre, Mange tes morts, c'est un titre bien peu chrétien pour ce film, mais pourtant le film parle du bien et du mal et se termine par un baptême. Mange tes morts, c'est la pire injure pour les Yéniches, une communauté semi-nomade, surtout présente en Allemagne et en Suisse, et que Jean-Charles Hue, donc le réalisateur, filme depuis une dizaine d'années, d'abord dans des documentaires, et puis, comme tu l'as dit, avec une première fiction, La BM du Seigneur. Alors, Mange tes morts reprend les mêmes ingrédients, c'est-à-dire c'est des acteurs non professionnels issus de cette communauté qui jouent une fiction, donc une histoire non réelle, mais qui aurait très bien pu leur arriver. C'est un peu d'ailleurs en partie le procédé de Party Girl. Alors, le film se déroule sur une journée et une nuit. Fred, un malabar de plus de 150 kilos, rejoint sa famille après avoir passé 15 ans de sa vie en prison. Il est mal reçu par la famille, car il représente le mal face au bien. Dans la communauté, il faut choisir. Soit on devient chouraveur, c'est-à-dire voleur, ou on est chrétien. Et justement, Jason, le frère de Fred, doit faire son baptême le lendemain. Mais avant de partir, eh bien, avant de se faire baptiser, ils partent dans une virée nocturne. Et donc, le film nous embarque dans le bolide de Fred, dans une succession d'épisodes qui mélangent rodéo de voiture, bar de nuit et tentative de vol d'un camion de ferraille. Ça tient du western, ça tient aussi du thriller. On rit, on sourit souvent, mais les quatre banquignoles accumulent des gaffes, mais elles sont hélas parfois tragiques. Donc on retrouve dans ce film le choix entre le bien et le mal, le tragique du destin qui peut faire basculer un homme du mauvais côté, et tout ça dans l'environnement très particulier de cette communauté yéniche. Un film tout à fait intéressant.
Merci Jacques. Je crois que Arnaud nous dit qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il reste juste une minute. Donc ben voilà, je ne pourrais pas vous parler de l'institutrice, le film israélien de Nadav Lapid, mais je vous le conseille vivement. C'est un film qui sort complètement de l'ordinaire, et par son thème, et par la façon dont il est réalisé. Vraiment, on a l'impression de quelque chose de nouveau. Ça sort en permanence des règles de l'attendu et des règles établies. Et je vous le conseille très vivement. Puisqu'il est temps de nous quitter, merci à Françoise, merci à Jean-Michel, merci à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui a assuré la réalisation technique et merci à tous ceux qui l'ont écouté et à qui Champ contre Champ et Profil disent à la prochaine fois. Notre prochaine émission aura lieu le mardi 28 octobre de 13h15 à 14h.